En tout cas, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à le regarder. On peut le trouver, le télécharger sur Internet. Paris, 1924. Deux athlètes britanniques triomphent aux Jeux olympiques. Plus que le simple exploit sportif, ce sont les raisons profondes qui ont mené l'un et l'autre sur les chemins de la victoire qui marquent les esprits. De confession juive, Harold Abrahams court pour défendre l'honneur de son peuple. De son côté, Eric Liddell puise son énergie dans sa foi en Dieu. Animés chacun par des convictions aussi personnelles qu'inébranlables, leur engagement à toute épreuve est une véritable leçon de vie. C'est ce qu'on trouve en commentaire sous ce film, sous cette bande-annonce sur YouTube. Alors, l'engagement sportif, un exemple à imiter. Si j'ai choisi de démarrer avec ce film ce matin, parce que nous sommes en plein Jeux olympiques de Paris, c'est 100 ans exactement depuis que les Jeux où ces deux athlètes ont concouru avaient été organisés en France. Donc voilà, on fête les 100 ans cette année, hein, c'était Paris 1924. On est à Paris 2024. En même temps, ça m'interpelle toujours d'évoquer, de penser au sport, aux efforts et aux sacrifices que cela implique pour ceux qui pratiquent une discipline physique de haut niveau, en comparaison de nos propres efforts en tant qu'enfants de Dieu. Alors, vous avez vu dans le court extrait que nous avons visionné les efforts, les commentaires qu'ils produisent. Les athlètes qui ont concouru il y a 100 ans se sont entraînés au moins aussi durement que tous ceux qui viennent de le faire durant les 10 jours écoulés. Avez-vous retenu ce que déclare Eric Liddell, donc le pasteur qui court ? Je compare la foi à une course à pied. C'est dur. Ça demande la concentration de la volonté, l'énergie de l'âme. Et nous ? Sommes-nous concentrés, pleins d'énergie, entraînés ? Alors, puisque les enfants sont avec nous ce matin, on va faire un test. Qui veut faire le test, les enfants ? Alors, je vais avoir deux épreuves à vous faire faire. Il ne faut pas prendre trop de temps à être volontaire parce qu'on n'a pas que ça à faire quand même. Mais il y a un lancer de balle de ping-pong. Donc, celui qui va arriver le plus loin à lancer sa balle de ping-pong. Donc, c'est des épreuves où on concourt deux par deux. Donc, Louis, tu sais comment ça marche, hein ? On descend ça et puis on lance. Mais il faut vous mettre en bas. Vas-y, tu fais l'épreuve avec Louis et le gagnant fera l'épreuve après avec Jeanne. Ah ben, si tu démarres avant. Attention, on lance vers la porte là-bas. Attention, 1, 2, 3, partez. Ça ne veut pas partir ? Ah, pas mal. Alors, qui a gagné, les parents ? Bon, on va faire Louis contre Jeanne, et puis après, on fera Jeanne contre « J'arrive jamais à retenir ton nom », qui est compliqué pour moi. Voilà. Et après, on fera une deuxième épreuve, où vous pourrez concourir tous les trois ensemble. Alors, maintenant, il y en a un qui fait avec Jeanne, c'est Louis. Allez, il faut descendre. Hein. On ne le fait pas ici sur l'estrade. Vite, vite. Allez, Louis et Jeanne, concours de lancer de balle. Qui est le meilleur ? 1, 2, 3, partez. Ah. Bon, ben voilà, des fois, il y a le matériel qui tombe en panne. Bon, ben Louis, tu as gagné alors. Parce que si on continue, on va prendre trop de temps. Deuxième épreuve. Sauter à cloche-pied 5 fois sans poser l'autre pied par terre. Qui peut faire ça ?
Moi.
Eh bien, allez-y, vous vous mettez sur la même ligne, tous les trois. Là où vous étiez, vous savez comment on fait pour sauter à cloche-pied ? Ici, vous démarrez au même endroit que tout à l'heure. Alors, en fait, je ne les ai pas prévenus, mes petits-enfants, sinon ils auraient été trop excités. Donc, ils n'ont pas plus d'entraînement que leurs camarades. Attention, 1, 2, 3, partez, 5 sauts. Ouais, c'est bon, vous avez tous gagné, bravo, vous êtes des champions. Alors, nous, de la même manière, est-ce que nous sommes bien entraînés pour connaître Dieu et sa parole? Je vous propose à tous un petit test, c'est pareil, on ne va pas tout bien faire ce matin. Donc, vous pouvez vous passer les feuilles, il y en a 25 si j'ai bien compté, et puis vous répondrez. Vous aurez le résultat à la sortie du culte, parce qu'on n'a pas le temps de voir le résultat et tout. Mais vous pouvez regarder sur la feuille et on va passer les questions sur le PowerPoint. Alors, vous allez de toute façon retrouver les questions. Je vais y aller pour pas qu'on prenne trop de temps. La question numéro 1 à laquelle vous devrez répondre, c'est d'où vient le mot Bible ? Est-ce que ça vient de Babel, de Biblos, qui est un mot grec équivalent à livre, ou de bibliothèque ? La deuxième question, quelles sont les langues principales de l'Ancien Testament ? L'araméen et le grec, l'hébreu et le grec, l'hébreu et le latin. Vous ne l'avez pas ? Ah, bah désolée. Pourtant, normalement, j'ai fait un copier-coller pour mon PowerPoint, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, rappelez-vous que c'est les langues principales dans l'Ancien Testament, parce que normalement, c'est pour ça que vous aurez la réponse. En 3, quel est le dernier livre de la Bible ? C'est bon ? Donc, le livre de Zacharie, l'Apocalypse de Jean ou la lettre aux Hébreux. En 4, combien de chapitres compte l'Évangile selon Luc ? 24, 28 ou 31 ? En 5, qui perdit sa liberté pour avoir perdu ses cheveux ? C'est bon, parce que ça, je l'ai changé en cours de route. En 6, quel évangile est le plus court ? L'évangile selon Jean, selon Marc, selon Luc ? 7, de quel mot grec vient le mot évangile ? De bonne nouvelle, de témoignage, de résurrection ? 8, quelle parole de Jésus ne se trouve pas dans la Bible ? Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Je suis le roi des Juifs. Je ne suis pas venu apporter la paix. 9. Quels évangélistes racontent la naissance de Jésus ? Les 4. Matthieu, Marc et Luc, ou Matthieu et Luc. Combien compte-t-on de psaumes dans le livre des psaumes ? 47, 128, 150. Les enfants, si vous avez des connaissances bibliques, vous pouvez jouer avec les parents. 11. Quel est le dernier verset de la Bible ? La grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Attendons le Seigneur qui doit venir ou bonne soirée. 12. Lorsque Samson a tué 1000 Philistins à Léhi, quelle arme a-t-il utilisée ? 13. Quels disciples ont été témoins de la transfiguration de Jésus ? 14. Qui a dit : quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur ? 15. Moïse mourut à 120 ans et fut enterré dans une vallée de Moab. Qui l'a enterré ? 16. Qui était le père de Jean-Baptiste ? 17. Combien de livres de la Bible portent le nom de femme ? Je suis une femme, il fallait bien que j'en mette une quelque part. Qui Dieu a-t-il décrit comme un homme intègre et droit ? 19. Combien de temps Jonas est-il resté dans le ventre du grand poisson ? Et enfin, 20, quel âge avait Abraham lorsque son fils Isaac est né ? Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à répondre à toutes ces questions. Vous voyez qu'on peut aussi avoir plein de connaissances sur la Bible. Et je vous le rappelle, pour vérifier si vous avez bien répondu, à la fin du culte, Peter a disposé 5 feuilles avec les bonnes réponses. Donc, vous pourrez vérifier si vous avez les bonnes réponses. Mais pourtant, Est-ce que c'est cela, être disciple de Jésus-Christ ? Pouvoir répondre sans erreur, savoir citer des passages de la Bible, par exemple, avec leurs références. Pour ma part, j'ai parfois croisé dans les églises que nous avons fréquentées des personnes qui pouvaient citer en n'importe quelle occasion un texte biblique et sa référence exacte pour affirmer que Dieu attendait de nous tel ou tel comportement, ce qui m'a d'abord beaucoup impressionnée. Mais avec le temps, j'ai constaté que parmi ces personnes qui connaissaient si bien leur Bible, certaines se permettaient ainsi de vivre et de voir les autres à travers un esprit de jugement qui ne glorifiait pas Dieu. Alors est-ce que Dieu attend de nous que nous soyons un puits de connaissances bibliques, une encyclopédie intarissable ? Quel entraînement devons-nous pratiquer ? À chaque fois que nous nous trouvons dans une période où le sport est particulièrement mis à la première place dans notre société, comme cet été olympique, où nombre de personnes se tournent vers le spectacle passionnant de nombreuses épreuves sportives, je repense à ces questions et aux encouragements que la parole de Dieu nous donne en relation avec l'exercice physique. Je propose donc deux textes à notre méditation. Et les enfants ont déjà commencé, mais pendant que nous réfléchirons à cela, ils ont des dessins à colorier, ce sont des petits sportifs, donc ils peuvent continuer. Ceux qui ont envie, qui ne se sont pas levés, vous pouvez aller colorier sur la table. Il y a des dessins pour vous, il y a des feutres et des crayons de couleur. Donc, lisons un premier texte. Nous le trouvons dans 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner ? Et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Et puis un deuxième texte. Pardon, je me suis enrhumée avec la clim cette semaine. Alors, vous aurez la référence à la fin, c'est Philippiens 3, les versets 12 à 16. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au bout, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Alors ces textes nous parlent de course et aussi de boxe, sport pratiqué couramment dans l'Antiquité. J'ai oublié de passer, excusez-moi. Alors ces sports étaient pratiqués dans l'Antiquité. L'épreuve physique n'y est pas considérée comme un but en soi, mais ça sert d'exemple, de comparatif, pour comprendre quelle doit être notre progression sur cette terre, dans notre vie spirituelle, afin d'atteindre le but que Dieu nous a promis. Alors, en premier lieu, il me paraît important de préciser quel est ce but. Quelle est la couronne dont il est question ? Qu'en pensez-vous ? Nous venons de chanter, À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Mais on a aussi chanté « je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. » Et dans ces paroles, nous pouvons déceler ce but qui découle de notre raison d'être. Nous avons démarré une course le jour où nous avons compris que Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu verser son sang sur la croix, mourir pour nos fautes, prendre nos péchés sur lui pour nous offrir la vie éternelle. La couronne que nous pouvons donc recevoir en menant cette course à son terme, en ne nous détournant jamais du but, c'est de nous tenir éternellement en présence de notre Seigneur, nous tenir près de lui en toute confiance, même au-delà de la mort physique. Voilà la couronne dont Paul nous parle. Il s'adresse aux Corinthiens, aux Éphésiens, en leur parlant de course. Et c'est aussi parce que cela est un élément important de leur culture, dans cette culture où ils vivent et évoluent. Alors, je me suis demandé pourquoi si peu de sports sont cités dans la Bible. Or, les deux que nous avons dans notre texte, la course et la boxe. Pas de mention de natation, par exemple. Mais quand même, Jésus marche sur les eaux. L'exercice physique à cette époque servait surtout au culte des dieux, comme lors des Jeux olympiques. C'est à notre époque moderne que le sport est devenu un loisir si prisé, avec sa remise à l'honneur au courant du XIXe siècle et une sorte de restauration des Jeux olympiques, mais sous une autre forme, par Pierre de Coubertin. Selon l'historien du sport, Philippe Lyotard, il y a une coupure très nette entre le sport moderne et le sport antique. C'est la notion de record et donc de performance. Le record et la performance expriment une vision du monde qui est profondément différente entre les Grecs et les modernes. La culture du corps est différente. Pour les Grecs, cette culture est rituelle, culturelle, d'inspiration religieuse. Pour les modernes, le corps est une machine de rendement. Tout au long des siècles, des manifestations sportives diverses ont eu lieu. Alors, en me documentant, j'ai eu la curiosité de me demander combien de sports différents pouvaient être cités. En fait, la liste, elle est tellement longue qu'on ne peut pas les citer. Mais pour l'anecdote, j'aimerais en citer deux. Est-ce que vous connaissez la ringuette ? La ringuette, c'est un sport féminin canadien qui a des similitudes avec le hockey sur glace. Et peut-être que certains sauront, est-ce que vous connaissez le gouren ? C'est la lutte bretonne. Il y a des sports qui sont entrés aux Jeux olympiques et qui en sont sortis aussi vite. Parmi ceux-ci, on peut noter qu'il y a eu le jeu de paume qui est entré et sorti du cycle olympique en 1908. Il y a eu aussi la pelote basque qui était entrée et sortie en 1900. Alors, il y a tellement d'épreuves dans lesquelles les humains aiment s'affronter, juste pour savoir qui est le meilleur. Tant de diversité due à l'imagination des hommes d'un côté et si peu d'exercices physiques mentionnés de l'autre. Dans cette lettre aux Corinthiens, Paul souhaite répondre à des questions ou à des accusations qui lui ont été faites. Tout comme son maître Jésus-Christ l'a fait, il prend des exemples de la vie de tous les jours afin de faire comprendre sa pensée à ses contemporains, à ses lecteurs. Au moment où il souhaite parler du service qu'il accomplit, de son droit à en tirer subsistance, il évoque la vie des athlètes. Il se compare à eux, car lui-même, pour mener à bien son ministère, doit maîtriser son corps et le pousser à s'adapter à des façons de vivre, de réagir bien différentes selon le milieu dans lequel il évolue. Il encourage ceux qui veulent s'engager dans la même charge à l'imiter. Au verset 25 et au verset 27 de notre texte de Corinthiens, nous avons lu « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Et je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement. » Alors la couronne, je l'ai contextualisée, vous avez bien compris. Voici le genre d'exemple que Paul nous donne. Et c'est ce que nous avons vu cet été dans toutes les manifestations sportives. Ces hommes, ces femmes ont fait des sacrifices depuis des années pour atteindre le but ultime, l'or olympique. Entraînement et régime alimentaire rigoureux, investissement financier avec un but bien défini. Est-ce que cela ne nous enseigne pas sur notre vie chrétienne ? Avons-nous, comme ces athlètes et comme l'apôtre Paul, un but clairement défini ? Avons-nous déterminé les étapes à franchir pour y arriver ? Sommes-nous prêts à tout sacrifier pour atteindre ce but ? Alors oui, c'est vrai, parfois nous sacrifions pas mal de choses, même beaucoup dans nos vies, en voulant être au service de Dieu. Si nous le faisons en toute conscience, avec joie, parce que nous sommes certains que Dieu nous a demandé de le servir de cette façon, alors nous sommes sur le bon chemin. Cela demande beaucoup de courage et d'énergie, mais nous sommes renouvelés dans nos forces par notre Seigneur. Cela nous demande aussi de nous préparer, parce que si nous commençons les préparatifs seulement au moment d'agir, nous serons vite dépensés par l'ampleur de la tâche. Il y a un ancien footballeur chrétien, Nicolas Le Grotali, qui a déclaré dans son témoignage « La foi, c'est un peu comme le football. Si on ne s'entraîne pas, on ne réussit pas. » En tant qu'Église, entité assimilée elle aussi à un corps, je vous rappelle, Romains 12, verset 5, de même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Donc en tant qu'Église, il nous faut apprendre à réfléchir à ce qui est notre but. Avons-nous défini quelle couronne nous voulons obtenir ? Avons-nous réfléchi à la façon dont nous devons être équipés ou préparés pour aller la gagner ? Dans beaucoup d'églises évangéliques, on appelle cela la vision. Connaissez-vous la vision de notre communauté ? De votre communauté pour nos visiteurs ? Est-ce que c'est grandir, rester stable ? Est-ce que c'est resserrer les liens fraternels ? Est-ce que c'est avoir ses propres locaux ? Pour nous, notre vision, c'est former des disciples qui font des disciples. Mais quel programme d'entraînement est-ce que nous acceptons de suivre pour mener cela à bien ? Quelle est la meilleure forme d'entraînement pour que nous puissions parvenir jusqu'au bout sans épuiser nos forces ? Voulons-nous entrer dans une compétition avec d'autres groupes pour être les meilleurs ? Même une église n'est pas à l'abri de ce genre de comportement sportif. J'ai trouvé une citation de Charles Guyot dans un carnet « Croire et servir ». Il déclare « Je n'ai pas oublié cette rencontre régionale au cours de laquelle j'avais apporté un message sur le bien fondé de l'évangélisation et la nécessité du témoignage. À la fin de la réunion, un groupe de chrétiens s'est approché de moi. Nous ne faisons pas partie de l'Alliance évangélique, mais vous savez, nous aussi on fait de l'évangélisation, et bien plus que beaucoup d'autres sans doute. Tenez, dans notre mouvement, on a organisé, et on a fait, et on a eu des convertis, et on a... » Le ton, l'attitude, les regards ne laissaient aucune place au doute. On est les meilleurs, on a gagné. Alors, toutes ces questions ne sont pas forcément celles que nous avons choisi de nous poser pour l'instant, mais il est bon parfois de faire le point pour savoir où nous en sommes. Lorsque l'athlète gagne ou lorsqu'il perd, il prend toujours un moment pour savoir ce qu'il a bien ou mal fait, ce qu'il faut changer ou continuer. Ça fait partie de l'entraînement. En comparaison pour le chrétien, à titre individuel ou en assemblée, il est bon, me semble-t-il, d'en faire de même. Le verset 26 de notre texte de Corinthiens dit « C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. » Eh bien, il y a ces personnes qui remuent effectivement beaucoup d'air, mais sans cohérence, sans avoir réfléchi pourquoi ou comment Dieu leur demande d'agir. Elles ont leur bonne conscience juste parce qu'elles font quelque chose. Mais pourtant, elles se fatiguent et se découragent, car cela n'a pas d'effet. C'est un peu comme si le cavalier montait sur une bicyclette et attendait que son cheval avance. Il a bien fait le bon geste, il est bien dans la bonne position, mais il s'est trompé de monture. Il aura beau se démener, il n'ira pas bien loin. Les athlètes que nous avons vus aux Jeux Olympiques jusqu'à maintenant, sur leur vélo ou maniant leur raquette de tennis, s'étaient tous préparés avec beaucoup de sérieux. Ils avaient le geste sûr, le bon équipement et la bonne préparation pour affronter les autres concurrents, abordant ainsi leurs défis sportifs avec assurance. J'aimerais nous encourager, nous tous de même, à prendre notre entraînement de chrétien avec sérieux, afin de ne pas être de ceux qui donnent des coups d'épée dans l'eau. Alors, je vous ai lu aussi un texte de Philippiens, nous allons le regarder. Dans la première partie du texte, encore une fois, l'apôtre Paul exhorte à mettre toute son énergie pour atteindre le but fixé. Nous sommes encouragés à ne pas nous disperser, mais à rassembler tous nos efforts pour la seule victoire désirée. Mais ce qui m'a interpellée, c'est le dernier verset de ce passage. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Ce verset n'encourage plus seulement une seule personne, mais le « nous » montre qu'il y a déjà au moins deux personnes qui sont considérées. C'est déjà une équipe. Pardon. Les équipes peuvent être plus nombreuses parfois. Là, je vous ai mis une équipe de 4. Mais il y en a 11 au football. Pourtant, même lorsqu'un athlète concourt tout seul, il y a toute une équipe qui est en jeu. Et lorsque l'équipe de France de football est à 11 sur le terrain, il y a encore bien plus de personnes en jeu. Les remplaçants, les entraîneurs, les soigneurs, et encore tout un nombre de préparateurs divers et variés, comme ceux qui mettent en place les tenues et équipements dans les vestiaires, par exemple. Tout ce monde est uni dans un seul but, que l'équipe gagne le match. Chacun apporte ses compétences pour que toute l'équipe marche ensemble dans la même direction. Ce fonctionnement d'une équipe sportive est également un exemple pour nous, en tant qu'Église, pour moi. Lorsque nous avons défini le but à atteindre, la vision, alors nous avons besoin des compétences de chacun pour arriver au but. D'une part, il ne faut pas exclure tel ou tel, sous prétexte qu'on n'imagine pas qu'il pourrait aider à quelque chose. D'autre part, un frère ou une sœur ne doit pas se retrancher d'office de l'équipe en se croyant peu important ou peu qualifié. Et nous devons également considérer les demandes ou les encouragements de nos coachs. Lorsqu'un ancien, lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur nous suggère que nous pourrions prendre en charge telle ou telle responsabilité, pourquoi refuser systématiquement en répondant « Non, c'est pas pour moi, je n'ai pas les compétences ». J'ai fait de même lorsque j'étais au Cameroun et que j'ai d'abord refusé de prendre en charge le groupe de dames de mon église. Le pasteur m'avait sollicité, je ne croyais pas que ça pouvait être ma place. Mais le Seigneur a trouvé le moyen de me convaincre. J'ai compris que ce n'était pas un homme qui me sollicitait, mais c'était Dieu qui m'appelait. Et ça dépassait les capacités que je pensais, moi, avoir ou ne pas avoir. Et puis, peu à peu, avec l'entraînement, Dieu m'a permis d'aller de plus en plus loin. Pourtant, je reconnais que si je ne persévère pas dans ma part personnelle d'entraînement, je m'essouffle bien plus vite. Et le groupe peut bien s'en trouver en difficulté. L'image de l'équipe de foot et de l'entraîneur peuvent aussi nous aider à comprendre ce fait. Pour avoir la meilleure équipe afin de gagner, le coach essaye, selon les matchs, de placer les joueurs à différents endroits du terrain pour optimiser les qualités de chacun. Et alors, si vous imaginez quand l'équipe de France joue et puis qu'on change Giroud de place ou Mbappé ou quoi, chacun devient coach et critique le choix de l'entraîneur qui a mal placé ses hommes. En continuant avec l'image du sport, pour ma part, je ne saurais pas manipuler une raquette de tennis ou de ping-pong pour gagner un match. Par contre, je peux bien aller ramasser les balles qui tombent un peu partout pour que le match continue. Et ça me va très bien de rester seulement ramasseuse de balles. Dans une église, c'est pareil, il faut de tout. Nous le savons bien, mais est-ce que nous le vivons vraiment sereinement et avec la paix dans le fond de nos cœurs ? Et alors, il y a un dernier élément que je n'ai pas évoqué dans notre « Marchons ensemble », ce sont les supporters d'une équipe. On dit souvent qu'en France, notre grand sport national, c'est la contestation. Nous ne serions jamais contents de rien. Si nous ne sommes pas engagés dans une action concrète pour l'avancement de l'Église, est-ce parce que nous préférons rester sur le banc de touche à huer ceux qui avancent ? Je ne l'espère pas. Renaud Lavillenie, ça vous dit quelque chose ? Il a témoigné combien les sifflets du public l'ont perturbé lors des Jeux olympiques de Rio. Le sportif imagine que ses supporters vont l'encourager. Et lorsque le contraire se produit, la contre-performance est vite là. Un public qui encourage permet de gagner. Il en est de même parmi nous. Si nous ne pouvons nous engager dans un projet d'évangélisation pour agir, notre prière fervente pourra faire la différence pour le succès, par exemple. Alors, en conclusion, j'aimerais nous encourager tous à être, tout au long de la nouvelle année d'activité qui va démarrer, dans nos communautés respectives, des sportifs pleins de zèle pour l'entraînement, des supporters assidus dans les réunions, des frères et des sœurs décidés à continuer à marcher ensemble dans la même direction pour la gloire de notre Dieu et pour que beaucoup autour de nous puissent parvenir au salut et gagner la couronne avec nous. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, je veux te remercier ce matin parce que il y a parfois des choses qui ne nous plaisent pas dans ce que nous vivons, dans ce que nous voyons à la télé, dans les épreuves sportives que nous suivons, dans tout ce que nous avons pu voir et entendre depuis le début de ces Jeux olympiques. Mais ta parole aussi nous parle de sport, d'entraînement, de persévérance. Et je te prie vraiment que nous prenions cela comme exemple et comme encouragement pour continuer à marcher sur le chemin avec toi, dans la confiance, parce que tu nous as sauvés et parce que tu veux sauver encore beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous. Merci Seigneur, parce que tu veux nous utiliser. Nous t'en sommes reconnaissants et humblement nous te demandons de nous aider pour cet entraînement que tu nous demandes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.